Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Les pays du Maghreb sont un marché de consommation important pour les entreprises françaises, dont beaucoup sont implantées au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, à l'instar de Peugeot, Casino ou Renault. Mais qu'en est-il des relations que la France entretient avec ces pays, ex-colonies ou anciens protectorats? Ces relations sont-elles conflictuelles ou apaisées? Sont-elles de même nature s'agissant d'Alger, Tunis ou Rabat? Les questions sécuritaires, voire territoriales, pèsent-elles sur ce lien entre Paris et le Maghreb? Autant de questions que nous évoquons avec Khadija Mohsen-Finan à l'occasion de la sortie du numéro 34 de la revue Moyen-Orient, consacrée au retour d'une politique arabe de la France. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Khadija Mohsen-Finan, bonjour.
Bonjour.
Politologue, enseignante chercheuse en relations internationales à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous signez dans la dernière livraison de la revue trimestrielle Moyen-Orient une analyse sur les relations entre la France et les pays du Maghreb. Ce sont des relations différenciées, écrivez-vous. Différenciées, pourquoi ?
Oui, ce ne sont pas les mêmes, d'abord parce que l'histoire n'est pas la même. La France était présente dans les trois pays du ce qu'on appelle le Maghreb central, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais elle avait une présence qui était différente, bien plus ancienne, 1830 en Algérie, sous forme de colonie avec trois départements français, et puis beaucoup plus tard, 1881 pour la Tunisie et 1912 pour le Maroc sous forme de protectorat. Alors d'abord la présence n'était pas la même et la décolonisation ne s'est pas faite de la même manière. Une entente entre le gouvernement français et l'État marocain ou ses représentants et les représentants du mouvement nationaliste tunisien avec Habib Bourguiba, donc sous forme de négociations et d'entente, et une guerre qui a duré 8 ans en Algérie, une guerre meurtrière et qui a vraiment choqué les esprits et marqué aussi les institutions et la vie politique des deux pays.
Justement, est-ce qu'aujourd'hui les relations entre Paris et Alger sont toujours marquées par cette période de colonisation et de décolonisation d'ailleurs ?
Elles sont tendues. Alors, on peut expliquer cette tension par l'histoire et par la manière dont les choses n'ont pas été dites au bon moment et de manière apaisée. Donc, il y a un passé commun, mais dont on ne parle toujours pas de manière apaisée. Mais il y a des choses qui sont venues s'ajouter à ces tensions qui sont liées à l'histoire. Et il y a surtout une manipulation du nationalisme par le pouvoir algérien et dont le régime n'a pas changé de 1962 à aujourd'hui.
Ce qui veut dire que la population algérienne est prisonnière de cette manipulation par le mouvement nationaliste ?
Oui. Elle ne le sait peut-être pas parce que ça se fait sous forme d'idéologie, mais il y a très régulièrement une manière de vouloir reformer, si vous voulez, le lien entre les gouvernants et les gouvernés, ou faire aussi un lien autour du pouvoir sur cette question du nationalisme de la France qui serait en faute, qui n'a pas présenté d'excuses, qui n'a pas fait repentance, et la manipulation de l'histoire est toujours là. Même si aujourd'hui il y a une volonté de lire autrement le passé et l'histoire dans les trois pays du Maghreb.
Par exemple, en Algérie, comment voudrait-on le lire ?
Il y a des historiens qui voudraient se défaire de cette histoire qui a été marquée par les héros, par le leadership de ceux qui ont conduit cette guerre d'indépendance. Aujourd'hui, la population est majoritairement jeune, elle n'a pas vécu ça et elle aimerait avoir une autre lecture de la guerre, une autre lecture de la guerre civile des années 90, une autre manière d'écrire l'histoire. l'histoire en mettant peut-être le citoyen au centre, beaucoup plus que ses leaders qui ne représentent plus grand-chose pour la société aujourd'hui. Et ça se retrouve alors moins en Algérie, mais beaucoup plus au Maroc et en Tunisie, où on a vraiment entamé une autre lecture de l'histoire.
Alors justement, on parle du Maroc. Est-ce que la relation entre l'Algérie et la France n'est pas impactée aussi par ce qui semble être de très bonnes relations entre la France et le Maroc?
Oui, absolument. Il y a l'histoire, il y a la manipulation de l'histoire par le pouvoir algérien, et il y a aussi la manière dont les Français entretiennent cette relation depuis... Vous savez, elle n'a pas toujours été parfaite, cette relation. C'est surtout depuis, je dirais, 92, 93 peut-être, les années 90, où elle devient vraiment excellente. Pas un nuage, un appui à la question du Sahara occidental, qui est une question qui est très importante pour les Marocains, et une relation réellement de proximité qui a conduit le président Jacques Chirac à parler des provinces du Sud quand il parlait du Sahara occidental. Ce sont des choses qui irritent considérablement les Algériens parce qu'il y a implicitement une course à la proximité de Paris de la part des deux grandes capitales du Maghreb, c'est-à-dire Alger et Rabat. Il y a une course à l'armement, etc., mais il y a surtout une course à la proximité de Paris, avec Paris et avec Washington.
Alors, rappelons que la question du Sahara occidental, c'est la revendication du Maroc sur cette ancienne colonie espagnole. En revanche, l'Algérie, elle, souhaite l'indépendance de ce territoire.
Oui, l'Algérie a toujours dit qu'elle n'avait pas de revendication territoriale sur l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental. Mais en réalité, ce qui s'est passé, parce que c'est un conflit qui date de plus de 40 ans maintenant, 42 ans, c'est que le contentieux qui existe entre le Maroc et l'Algérie sur des questions qui est née très tôt après l'indépendance, sur des questions de frontières, si vous voulez, s'est cristallisé sur cette affaire de Sahara occidental. Donc on ne peut plus régler le conflit du Sahara occidental comme il se posait initialement, c'est-à-dire une affaire de décolonisation. Et aujourd'hui, on ne peut plus le régler normalement parce que c'est un conflit qui a épousé les contours de ce contentieux entre Alger et Rabat. Et donc, l'ONU devient totalement impuissante devant ce genre de conflit. Les populations sont écartées, on en oublie le contenu réel et la vocation initiale. Et aujourd'hui, on est devant un gros problème pour la résolution de ce conflit.
Mais alors, revenons sur l'Algérie, qui est quand même un acteur très important de la sécurité dans la région. Et il y a quand même une coopération entre la France et les pays de la région sur les questions de sécurité. Est-ce que les difficultés qu'il y a entre les deux pays peuvent mettre des embûches sur le chemin de cette coopération sécuritaire dans la région ?
Alors, curieusement, même lorsqu'il y a eu des moments de tension entre Alger et Paris, les questions sécuritaires et les questions militaires ont été à l'abri de ces tensions.
Pourquoi ?
Parce que il y a un intérêt mutuel, parce que pour toutes sortes de raisons, parce que depuis l'ère de Chadli Ben Jedid, l'Algérie achète aussi une partie de son armement en France et qu'elle forme une partie de ses cadres ici, que ce n'est plus autrefois c'était l'Union soviétique. Donc il y a réellement un lien stratégique fort entre Alger et Paris qui n'est pas explicite, qui n'est pas de l'ordre de l'explicite, mais qui existe et qui ne subit pas les effets des tensions. Des tensions qui rebondissent de manière régulière et qui portent justement sur ces questions, sur ces points d'histoire. Donc, est-ce que ça ne va pas impacter cette relation ? Non, je pense que ça ne va pas l'impacter. Simplement, aujourd'hui, la France ne peut plus choisir entre avoir un interlocuteur privilégié et un allié privilégié qui peut être le Maroc et l'Algérie. Elle a en réalité tous ses interlocuteurs sont des interlocuteurs privilégiés. Et donc on a une multiplicité en tout cas d'acteurs privilégiés et ça c'est ce que les classes politiques du Maghreb ont du mal à comprendre parce qu'il faut qu'on passe justement à d'autres relations qui sont liées au nouveau contexte régional.
Et notamment de nouvelles relations comme celles qu'il y a avec la Tunisie, on en a parlé assez peu effectivement, les relations sont plutôt bonnes actuellement.
Elles sont bonnes, mais il ne faut pas oublier qu'avant 2011, ces relations étaient surtout sécuritaires et économiques, comme partout dans la région d'ailleurs. Les sociétés ont été laissées de côté, c'est-à-dire que même les représentants de la société civile n'étaient même pas reçus. Donc effectivement, pour ces raisons, la France a été surprise par le soulèvement, alors que en réalité, si elle avait suivi de près ce qui se passe dans ce pays depuis l'indépendance et depuis en tout cas les années Ben Ali, elle n'aurait pas été surprise. Donc elles sont pour le moment, elles sont à la fois bonnes, mais en réalité, les Tunisiens attendent plus des Français. Ils attendent une aide financière, ils attendent une aide stratégique, ils attendent peut-être beaucoup d'ailleurs, et ils attendent surtout, lorsque la Tunisie a été réellement divisée en deux dans les années 2012 et 2013, entre les modernistes et les islamistes, il y a eu inconsciemment, je pense, une attente de la part des modernistes, qu'on appelle un peu de manière impropre les modernistes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas islamistes et qui s'opposent à l'islam. Ils ont attendu un appui de la France, un appui ouvert. Alors là, pour le coup, la France, je pense qu'elle ne pouvait pas choisir entre les deux camps. Il y avait eu des élections libres et les islamistes ont été portés au pouvoir par ces élections. Donc elle se serait mise en porte-à-faux si elle avait choisi un camp plutôt que l'autre. Donc on a une strate comme ça d'attente de la part des Tunisiens qui sont plus ou moins satisfaits et qui créent finalement une tension mais qui s'exprime différemment que les tensions qu'on peut avoir avec l'Algérie ou avec le Maroc.
Oui, diriez-vous qu'aujourd'hui les sociétés marocaines et tunisiennes ont une relation plus apaisé avec la France que, par exemple, la société algérienne ?
Ah oui, certainement. Lorsqu'il y a des sondages qui sont faits sur la volonté de gagner l'Europe et d'aller en France, on le voit. Les jeunes le disent sans aucun complexe. Nous voulons aller en Europe, en passant, en ce qui concerne les Tunisiens, en passant par l'Italie, mais leur objectif, c'est d'aller en France. Il y a une proximité culturelle, il y a une proximité par la langue, par les médias qui sont retransmis, et je pense qu'elle n'est pas apaisée, elle a toujours été différente. Cette relation. Pour les Marocains, c'est exactement la même chose. La France et les Français, c'est beaucoup, c'est une référence pour les Marocains.
Merci Khadija Mohsen Finan, enseignante-chercheure en relations internationales à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je renvoie à votre article analyse dans le dernier numéro de notre partenaire, la revue trimestrielle Moyen-Orient, la France et les pays du Maghreb, une relation différenciée.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr. Orient Hebdo sur RFI.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, la presse israélienne évoque cette semaine l'Égypte, la Syrie, l'Afghanistan et surtout Donald Trump.
Éric, c'est la semaine pascale en Israël et la fermeture du point de passage de tabac qui mène à la péninsule du Sinaï a été une nouvelle plaie pour des dizaines de milliers d'Israéliens qui s'apprêtaient à y passer des vacances malgré les mises en garde de la cellule antiterroriste de la présidence du Conseil israélien. Haaretz parle de la guerre de survie du président Assisi, les journaux s'étendent sur l'attaque américaine en Syrie et la grande majorité des éditorialistes et autres commentateurs applaudissent à deux mains. La presse de ce week-end titre sur la mer de toutes les bombes larguées par les États-Unis en Afghanistan. Cela doit nous inquiéter tous, estime l'éditorialiste de Yediot Aharonot. Haaretz parle du post-modernisme du président américain qui n'hésite pas, selon le journal, à dire dans la même phrase une chose et son contraire.
Alexandre, la Syrie, Michel en parlait un instant, une partie de la presse du Golfe réclame la tête du président syrien.
Oui, certains journaux vont même plus loin, puisqu'ils réclament tout simplement la décapitation de tout le régime actuellement au pouvoir à Damas. Alors selon eux, Assad et sa clique sont les générateurs d'extrémisme avec leurs alliés iraniens et du Hezbollah libanais. Alors comprenez, l'alliance chiite de Damas provoque une réaction de rejet sunnite qui se traduit par la prolifération de mouvements extrémistes comme le groupe État islamique. Des journaux qui applaudissent le bombardement américain de la base aérienne syrienne d'où seraient partis les raids au gaz sarin contre des populations civiles, l'occasion de comparer ce que les éditorialistes décrivent comme la détermination du président Donald Trump face aux tergiversations de son prédécesseur Barack Obama. Si l'on juge du temps de la presse du Golfe, c'est dans ces pays que Donald Trump, surnommé Abu Ivanka el-Amriki, le père d'Ivanka l'Américain, a ses plus fervents partisans.
Et puis, les attentats contre les églises coptes sont encore à la une de la presse égyptienne, Alexandre.
Oui, et des journaux qui rendent compte de vastes opérations de ratissage dans la province de Kena, en Haute-Égypte. C'est en effet dans cette province située à des centaines de kilomètres au sud d'Alexandrie que sont originaires les kamikazes qui ont perpétré les attentats à la bombe contre deux églises coptes. Les journaux se félicitent par ailleurs du maintien de la visite du pape François prévue en Égypte les 28 et 29 avril. Un pape qui jouit d'une popularité inégalée chez les Égyptiens et notamment chez les musulmans du fait de son discours perçu comme un discours d'ouverture et de tolérance. Une visite qu'il espère certains éditorialistes permettra de réduire les effets négatifs des attentats antichrétiens sur l'image de l'Égypte.
Michel, une étrange affaire en Israël, des corps disparaissent.
Macabre découverte en effet du quotidien Haaretz qui en a fait sa manchette cette semaine. Israël, révèle le journal libéral, reconnaît avoir perdu des corps d'auteurs d'attentats qui ont été inhumés en Israël. Vous savez, Eric, que depuis le début de l'intifada actuelle, Israël ne s'empresse pas de restituer les corps des Palestiniens abattus par les forces de sécurité. Ils sont en principe ensevelis dans des cimetières spécialisés dont l'emplacement est gardé secret. Alors il s'avère que ces inhumations ont été privatisées et que les listes et emplacements des sépultures ont disparu. À l'heure actuelle, seules deux tombes sur 123 réclamées par des familles palestiniennes ont pu être identifiées.
Et puis, Michel, vous avez retenu deux autres articles intéressants.
Alors tout d'abord, un dossier que consacre le supplément hebdomadaire de Marie à Marine Le Pen, sous le titre de « Au nom de la fille, une vie digne d'une telenovela », proclame l'auteur de l'article. Au centre de cet article, bien sûr, les déclarations récentes de Marine Le Pen sur la rafle du Veldiv et la responsabilité de la France pour la déportation des Juifs pendant la guerre. Et aussi une autre petite phrase en faveur de la construction dans les colonies de peuplement. Et dans Makor Rishon, le journal des colons, Marine Le Pen proclame « Je suis le meilleur défenseur des Juifs de France ». Aussi à retenir un article de Haaretz qui fait beaucoup de bruit. Son auteur s'en prend aux Juifs religieux. « Les terroristes du Hezbollah peuvent être neutralisés », écrit-il. « Ce n'est pas le cas pour les Juifs religieux ». Un article qui provoque ici un tollé.
Alexandre, un expert, soutient dans le quotidien Al-Shak Al-Awsat que le terrorisme islamiste ferait face à une crise idéologique.
Oui, alors pour Hani Nassira, cette crise idéologique vient de l'élargissement constant des cibles considérées comme ennemies par la mouvance djihadiste. Cela a commencé, estime Nassira, par l'ennemi lointain, avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan et la formation de l'organisation Al-Qaïda. Cette dernière s'est ensuite retournée contre l'ennemi proche, c'est-à-dire les régimes arabes, considérés comme despotiques car ne voulant pas appliquer la charia. Puis est venu avec la création du groupe État islamique le djihad contre les autres djihadistes, comme cela s'est passé en Syrie entre les diverses factions djihadistes. Aujourd'hui, les groupes djihadistes sont devenus les ennemis du monde entier, y compris de leurs semblables, conclut Nassira.
Allez, pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, c'est la photo de Sean Spicer, le porte-parole de la Maison Blanche. Même Hitler n'a pas utilisé l'arme chimique, a-t-il affirmé cette semaine. Une réflexion qui lui a tiré les foudres de la presse ici en Israël. Un commentateur le traite tout simplement de idiot.
Oui, sans commentaire. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter Orient Hebdo sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal d'information.